L'histoire de Mina. L'explorateur, le danseur et l'ingénieur. Mars 1977. Pendant les premiers mois après la naissance de mon fils, la peur ne me quitta pas. J'étais persuadée que Libor me retrouverait, qu'il disposait d'un réseau de complices à l'ouest, qu'il paierait des hommes pour me localiser. J'ai vécu 3 ans à Charleville, recluse avec mon enfant dans le petit appartement que je louais avec une partie de l'argent volé à Pilsen. J'économisais le reste, tout en sachant que ce ne serait pas suffisant. Je ne connaissais qu'un métier, marionnettiste, mais il était trop dangereux de l'exercer, de monter sur scène ou même de me dissimuler derrière un castelet. Comment survivre tout en restant caché? Baou trouva la solution. Il était toujours mon seul soutien, le seul à envoyer de temps en temps des jouets ou des livres à mon fils. Il avait été jusqu'à accepter le titre honorifique de parrain. Pourquoi ne fabriquerais-tu pas des marionnettes? Je les vendrais dans ma librairie. Baou s'était installé en Normandie, à Alençon, avec son nouveau compagnon. Il avait raison. Mes créations, des automates inspirés des karakuri ningyo japonaises ou des poupées parlantes d'Edison, obtint un joli succès. Baou me les achetait à un bon prix. Grâce à lui, tout un réseau de boutiques spécialisées les exposait, sans que je prenne aucun risque puisque rien, officiellement, ne me reliait à elles. Pourtant, le danger était toujours là, menaçant. Plusieurs fois, je m'étais convaincue que des voisins m'espionnaient. Qu'une femme assise à côté de nous dans le tram regardait avec un peu trop d'attention les yeux gris de mon fils. Qu'un homme fumait sa cigarette trop longtemps sur le trottoir face à ma porte, comme s'il attendait que je sorte. Dès que mon fils a eu 3 ans et que j'ai dû le scolariser, j'ai décidé d'utiliser mes 3 identités. Baou m'a prêté un peu d'argent, j'ai acheté une voiture d'occasion et loué successivement 2 autres petits appartements, à Paris et Florac. Un saut dans le vide. J'ignorais alors combien de temps ma fuite durerait. J'ignorais comment mon fils la supporterait. J'ignorais si j'étais capable de vivre 3 vies en une, chacune en pointillé. Cela peut sembler impossible, il est déjà tellement difficile de n'en vivre qu'une. Je peux vous l'avouer au risque de paraître me vanter. Vivre 3 vies m'est apparu d'une déconcertante facilité. Un saut dans le vide. Chaque vie l'est. Mais moi, je disposais de 3 essais. J'avais choisi de partager mon temps en 3. 1/3 à Charleville, 1/3 à Florac et 1/3 à Paris. Auprès des instituteurs de chaque classe, je jouais de mon statut d'artiste souvent sur la route, bohème sans l'accent circonflexe. Je quémandais le privilège dont disposent les enfants de forains, qui s'inscrivent dans plusieurs écoles successives au fil des foires où ils s'installent. Je disposais de beaucoup d'atouts pour obtenir un tel traitement de faveur. J'étais charmante, une mère courage célibataire dévouée corps et âme à mon fils, Renaud, Hans ou Pierre, un bon élève, calme, discret et doué, bien que de santé fragile. J'utilisais aussi ce prétexte médical pour justifier ses longues absences. Chacun avait envie de lui rendre service, de me rendre service. Les instituteurs lui envoyaient des devoirs par correspondance. Mon fils suivait une triple scolarité. Parfois, il s'en plaignait. J'en riais, je l'aidais, on s'en sortait. Aucun livret scolaire de Renaud, Hans ou Pierre, n'a jamais mentionné ses absences. J'y tenais. Quand 2 ou 3 fois, des professeurs des écoles ou des éducatrices, moins dociles, plus tatillons, se sont offusqués de ses absences longues et répétées, je sortais la carte du papa absent, mais dangereux, qui m'obligeait régulièrement à m'éloigner de l'endroit où j'habitais, pour la sécurité de mon enfant. « Mais il suivra une scolarité normale, madame, je vous le promets. » Et je tenais ma promesse. Renaud, Hans ou Pierre reprenaient sa place auprès de ses petits camarades quelques semaines plus tard, sans aucun retard. L'enseignant le plus difficile à convaincre, pendant toutes ces années, fut le directeur de l'école de Florac, Mathieu Mariotta. La seule solution pour le dissuader d'envoyer un signalement au rectorat a été de négocier l'animation d'un atelier de marionnettes pour les enfants du village et d'offrir chaque année un spectacle pour la kermesse. Une corruption de chiffon cousue d'invisibles fils de nylon. À ce moment de mon récit, je devine votre inquiétude. votre seule interrogation au fond. Et Renaud, ou Hans, ou Pierre, ce gosse, comment s'en sortait-il avec ces trois identités? Que puis-je vous répondre? Que tout ce que je mettais en place, cette folle itinérance, c'était pour le protéger, le sauver. Qu'après tout, c'était la mode, les séparations et les gardes partagées, les enfants ballottés d'une maison à l'autre, d'une école à l'autre, d'une famille à l'autre. Au moins, mon fils n'en avait qu'une. Et trois prénoms. Cela commença comme un jeu. Je l'appelais alternativement ou aléatoirement par chacun des prénoms. À la façon de ces parents bilingues qui changent au hasard de langue pour parler à leurs enfants et les habituent ainsi à jongler avec plusieurs nationalités. Renaud, Hans ou Pierre en étaient même fiers. C'était son secret, sa richesse, son mystère. À Charleville, il s'appelait Renaud, à Florac Hans et à Paris Pierre. Je lui avais confié une partie de la vérité. Son papa était méchant, il nous cherchait. Pour lui échapper, nous devions souvent bouger. Nous ne devions pas nous trahir ou nous tromper de prénom, jamais. Je lui vantais aussi tous les avantages de la situation. Comme ces parents qui pensent atténuer le traumatisme d'un divorce en expliquant à leurs enfants qu'ils auront deux maisons, deux chambres, deux fois plus de cadeaux et de copains. Lorsque nous étions à Charleville, Renaud était calme et posé. Il passait beaucoup de temps avec moi, à fabriquer ses poupées, à les perfectionner, à les transformer en automates articulés. Renaud était un enfant doué pour les activités manuelles, doté d'une grande patience et d'une puissante créativité. Lorsque nous étions à Paris, Renaud devenait Pierre, et ses mains ne lui servaient plus qu'à écrire ou danser. Dès ses 7 ans, il m'entraînait de musée en musée. Il avait insisté pour que je l'inscrive dans une école de danse, Tendance 18 rue de Panama, et il ne se révéla pas moins doué que les élèves qui s'exerçaient tout au long de l'année. Il lisait beaucoup à Paris, alors qu'il n'ouvrait jamais un livre à Charleville ou Florac. Il écrivait des poèmes, qu'il finit, quand il fut assez sûr de lui, par envoyer à son parrain, Baou, pour qu'il les publie dans son fanzine « J'écrivais des silences », sa plus grande fierté. Lorsque nous étions à Florac, ses mains ne lui servaient plus à rien. À s'accrocher à une branche de temps en temps, peut-être, ou à attraper une sauterelle. Quand Pierre devenait Hans, il ne supportait plus de rester enfermé. La moindre journée de pluie l'insupportait. Il trépignait tel un chien réclamant sa promenade. Il pouvait marcher des heures le long du Tarn ou jusqu'aux grottes du Causse-Méjean. Nous ne croisions parfois personne lors de nos grandes randonnées. Et quand nous parvenions au sommet du pic de Finiel ou de l'observatoire du Mont Aigoual, Hans contemplait l'horizon et m'avouait que c'est ce qu'il voulait. Passer son permis, voiture, moto ou bateau, et partir, loin, se confronter à toutes les immensités, déserts, forêts ou océans. Et je pleurais. Je pleurais, car mon fils ne pourrait jamais être tout à la fois. Un explorateur, un danseur et un ingénieur. Je pleurais car j'avais l'impression de vivre avec trois enfants différents, tous si attachants. Mais dès que je déménageais, je privilégiais l'un et les deux autres mouraient. J'avais assez d'amour pour les trois, mais un seul corps à serrer dans mes bras. Un seul enfant que je rendais fou, moi après moi. Quand Renaud, Hans ou Pierre a eu 11 ans, j'ai dû choisir. Je peux vous l'avouer, ce fut un profond soulagement. Impossible pour lui de poursuivre sa scolarité dans trois collèges différents. Nous étions en 1988. Ma peur s'était dissipée avec les années. Je me sentais de moins en moins entouré par une mafia d'espions sournois. J'en étais presque venu à oublier Libor, à presque me persuader que cette vie d'avant 1976, les nuits sous les étoiles, l'incendie de la roulotte, les menaces de mort, n'était qu'un cauchemar, dont je m'étais définitivement réveillé. J'ai inscrit Renaud au collège Bayard de Charleville-Mézières. Renaud, l'ingénieur, avait gagné. Mais j'avais promis que l'on rendrait visite le plus souvent possible, pendant toutes les vacances, à Pierre, le poète danseur, et à Hans, l'explorateur randonneur. Comment aurais-je pu priver Renaud de ses deux autres identités, même si la peur m'avait quitté? jusqu'à ses 12 ans. Jusqu'à ce 9 novembre 1989. Jusqu'à ce que tous les journaux titrent sur la chute du mur de Berlin et la disparition du rideau de fer de l'Estonie à la Bulgarie. L'Europe abattait les frontières. Si Libor, Amos et Christophe étaient encore vivants, plus aucun rempart ne les séparait de moi maintenant. À condition qu'ils me retrouvent. Je me suis raccrochée à cette espérance. Je n'avais commis aucune erreur pendant toutes ces années. J'avais déployé des efforts considérables pour brouiller les pistes. Libor et ses fils n'avaient aucun moyen de savoir où et sous quel nom je vivais. C'est ce qui s'est passé. La Tchécoslovaquie a connu sa révolution de velours, sa partition entre la Tchéquie et la Slovaquie, son entrée dans l'Union européenne, et rien n'a changé. Renaud a suivi une scolarité normale au collège Bayard, puis au lycée Monge, sans qu'aucun inconnu ne vienne le menacer. Sous le nom de Pierre, il a écrit des dizaines de poèmes pour le fanzine de Baou, a dansé l'Oiseau de feu, le Sacre du printemps et même Petrouchka au petit théâtre du Funambule de Montmartre, et aucun spectateur n'avait le visage brûlé. Sous le nom d'Hans, il a traversé le Causse noir et les Cévennes avaient été, sans jamais croiser sur le bord du chemin d'individus inquiétants. J'étais fière. J'avais gagné. Mon enfant vivrait heureux et vieux. Il a obtenu son permis de conduire dès qu'il a eu 18 ans. J'ai insisté pour qu'il le passe 3 fois, à Charleville, Mende et Paris. Ce ne fut qu'une formalité. Hans m'avait harcelé pour commencer la conduite accompagnée dès ses 16 ans sur les routes de Lozère. Ces 3 permis représentaient la dernière des garanties. Ils sont considérés par l'État français comme une pièce d'identité officielle. Mon fils pourrait désormais décider, dès qu'il le voudrait, de changer de nom et de vie. Après son bac, lors de l'été 1995, il a longtemps hésité. Renaud visait un DUT de génie mécanique, puis une école d'ingénieurs spécialisée dans la micro-robotique. Pierre envisageait sérieusement une carrière de danseur professionnel, et Hans de faire le tour du monde derrière le volant d'un camion s'il trouvait un employeur pour le financer. Cette fois, pensais-je, ce serait à lui de faire son choix. Une nouvelle fois pourtant, la vie a décidé pour lui. Il a rencontré Agnès, place Ducal, le dernier jour de l'été. J'ai tout de suite lu dans ses yeux que son itinérance, ses 3 identités, cette existence baroque étaient terminées. Hans et Pierre devaient s'effacer. Renaud resterait à Charleville avec cette fille, Agnès, qui du haut de ses 19 ans n'avait qu'une exigence, qu'on l'appelle Nanès. Nanès la tendresse, Nanès les caresses, Nanès et son cœur assez grand pour 3, Nanès qui m'adopta comme si j'étais sa propre mère. Renaud était amoureux. Sans hésiter, il avait amputé sa vie de ses 2 autres tiers. Sans remords, il avait étranglé les rêves d'Hans et de Pierre. Sans regret, il avait renoncé à sa liberté, comme dans la chanson, pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Du moins, je l'espérais. J'ai voulu croire que jamais Renaud ne chercherait à s'évader.